c'est normal que j'ai l'impression d'être plus bas que le micro qu'avant.
Oui,
c'est parce que je me suis affaissé.
Tu peux le monter.
Tu peux le monter. Moi, je me suis affaissé, quoi.
Non, c'est le poids des responsabilités.
Oui, c'est ça.
Quelle responsabilité. Si tu savais ce que j'ai fait pendant 2 mois, il n'y avait pas de responsabilité.
Il faut pas casser le truc. Là, je te crée une légende.
Pardon, mais choisir la bonne pizza, c'est une responsabilité.
Tout à fait. Hawaïenne.
Non, mais tu parles plus jamais de pizza hawaïenne dans ce micro. Merci.
Ah, mais pizza hawaïenne, ça n'existe pas, mal. J'ai jamais vu.
D'accord.
Arrêtez, c'est bon. La pizza hawaïenne, c'est pas si dramatique.
Non, c'est de la merde.
Arrêtez, mais quoi, d'où, de quand?
Alors, tu gaspilles un ananas déjà, ensuite tu gaspilles une pizza parce que l'assemblage des deux est de la merde.
Et tu gaspilles un poulet.
Ça notre première discussion d'après confinement.
Oui. C'est ça, les pizzas hawaïennes, c'est de la merde. Voilà. Et je suis sûr que les Hawaïens sont catastrophés par cette création.
Il y a des gens qui mettent des merguez dans leur pizza. Allô.
Il y a des pizzas kebab, mon gars.
Je veux dire un truc super intéressant, c'est-à-dire que vous avez jamais entendu parler de personnes qui veulent mettre de l'ananas dans la raclette.
J'en ai entendu parler, mais je les ai tués.
Il y a des gens qui ont essayé, ils sont tous décédés.
J'étais à une soirée, tranquillement, avec mon ancien coloc, quand tout à coup, nous entendîmes, juste à côté, une personne vanter les mérites de l'ananas dans la raclette.
Aïe.
J'espère que cette personne est décédée maintenant.
Et bah, j'espère aussi. On a hésité à quitter la soirée, sauf qu'on était à Bordeaux et on n'avait pas d'autre endroit pour dormir. Et voilà, on est resté.
C'est une honte.
Et ben la ville de Bordeaux n'est plus ce qu'elle était.
Tiens, resserre-moi un peu de voix, s'il te plaît. In a world.
No in a world, Jack. What do you mean, no in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Attends, on fait quoi là, d'habitude?
On fait oui.
Non,
c'est pas.
Non, c'est notre podcast.
Après,
c'est
ta B.
On crie.
Ok.
1, 2, 3.
Et là, tu dis bon.
Bonsoir. Non. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce qu'on dit déjà?
Bonjour
à toutes et à toutes. Aujourd'hui, l'heure du retour a sonné. Ce silence n'a que trop duré. Il est temps dès à présent pour nous, pour vous, pour toi, auditrice, pour toi, auditeur, pour la France, de rappeler les troupes et de rebrancher nos micros, d'échauffer nos cordes vocales et de remuer nos kilos en trop afin de revenir sur ces heures sombres que nous avons vécues tous ensemble, séparément, pendant près de 2 mois entiers. 2 mois d'enfermement, d'introspection forcée, condamnée pour le bien de l'humanité à regarder le printemps par la fenêtre. 2 mois isolés ici et là à scruter les rues désertées et à user de subtilité pour télétravailler sans travailler et continuer de picoler sans se faire juger. 2 mois aussi pendant lesquels nous avons pleuré nos cinémas fermés, ces films blessés en pleine lancée, ces tournages arrêtés, ce programme modifié, des mois sombres, des heures longues à regarder nos micros orphelins privés de sa bande de copains. Et tout ça à cause d'un putain de pangolin. Tout ça parce que l'homme est un con, surtout. Et c'est ensemble, enfin, que nous allons vous raconter ce périple qui a aussi été le vôtre, durant lequel nous avons traversé moultes émotions et pendant lequel nous avons confié notre culture cinéma aux disciples de salon comme Netflix, Amazon, nos bons vieux DVD ou encore cette fidèle Fnac du métro. Et ce, afin qu'il comble au mieux notre avis de manque de salles obscures. Et ça aussi, on va vous en parler en vous ouvrant les portes de notre Covidé Club. Il aurait pu manger des chips, mais il a préféré un animal en voie d'extinction. Ah, on pense à Bruno, à qui l'on doit ce jeu de mots qu'au Vidéo Club.
Ah.
Salut Bruno. Bon, les gars, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui.
Grave.
Je ne sais quelle expression, quel adjectif mettre sur mes émotions aujourd'hui, tellement je suis enjaillé de vous voir. Et de ce fait, hop, on se fait 1 mètre de distance, la lotion de gel hydroalcoolique au milieu de la table, l'élastique des masques bien tendu. Auditeurs, auditrices, amis, bienvenue dans Feta Béa, la bande qui est heureux là pour toi. Ouais, pourquoi pas. Avec moi aujourd'hui autour de la table, vous les connaissez déjà et ça fait longtemps que vous les avez pas entendus et on espère que vous aimez les retrouver aujourd'hui dans vos oreilles. Clémence, tu es là aujourd'hui?
Eh oui, salut
quel
Romain.
Quel plaisir de te retrouver. Mais
c'est la première fois que je te revois, c'est incroyable.
Oui. Comment penses-tu? Alors
quoi?
Qu'en penses-tu de ce physique complètement changé?
Je trouve que ta chirurgie esthétique là, c'est un peu abusé, ouais. Mais bon.
Ça va? Pour ouais. 42C, ça va, c'est pas trop.
Ouais, franchement, doucement ça te va sur la fonte, hein. Doucement sur la fonte.
Oui, ouais, doucement. Kevin aussi est là.
Oui, bonjour, bonjour à toutes et à toutes et à toutes.
De retour avec nous.
Et tout à fait, je suis très heureux d'être de retour avec vous.
Les distances de sécurité.
Ah, il faut les respecter, c'est très important. Et voilà, je ne saurais vous dire de trop vous dire que d'être prudent et c'est très chiant, je vous passe à la suite.
Johanna, notre compère de toujours. Johanna, tu es là avec nous aussi aujourd'hui.
Ouais.
Mon père, copine, copain.
Bah écoute, je suis là, je suis contente d'avoir recollé mon lit pour éviter d'être à un mètre de mon conjoint. Oui. C'était long. Mmh.
Mmh. Tu nous en parleras, Johanna. C'est un témoignage qui, à mon avis,
nous fera, non, vaut mieux pas.
Chambouler dans les chaumières. Erwan aussi est là aujourd'hui. Erwan.
Oui, bonjour. En direct des toilettes, parce que c'était la dernière pièce qui était disponible. Oui. Comme on est tous à un mètre de distance.
Mais tu as le câble plus long.
Oui, exactement. Tu as une rallonge.
Enchanté Erwan de te revoir, Clément aussi est là.
Eh salut.
Voilà.
Tu t'es un malaise, c'est important.
Ouais. Tu vas à l'essentiel, hein. Salut, ça va.
Salut, et bah ouais, alors, ça va. Hein. Content de vous retrouver.
Ça fait plaisir.
Et toi?
Et toi? Et moi,
oh,
ça va,
oh,
c'est Romain.
Salut,
Romain.
Arrêtez, je vous en...
Qu'est-ce que t'as changé depuis le début du confinement,
d'ailleurs? Ça, ça veut dire quoi, ça? Je sais très bien que tu me juges.
Bah, tes origines vietnamiennes ne se voient plus du tout.
Plus de poils, plus de kilos, c'est ça que ça prend de dire?
Ah, bah, c'est plus de beubard, surtout.
Plus de kilos, oui, mais plus de kilos...
D'amour.
De kilowatts
d'amour. Ça fait plus de toi aimé, comme dirait je sais pas qui.
Exactement.
La belle douce Camille Auressal dans son morceau. Ouais, bien sûr, bien sûr. Belle douille. Plus de moi aimé, ben, aimez-moi. Je vous en prie. Ça fait extrêmement plaisir, les gars, de vous revoir, franchement. On recolle là, franchement, j'ai l'impression d'être dans le petit bassin, je vous jure. Ça fait 3 mois que j'ai pas pris un micro.
On trempe les pieds.
Ça fait 3 mois que je me suis pas entendu dans un écouteur, de vous voir là déjà de si proche et pas derrière un écran. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir.
Grave.
Ouais, grave. On prend un moment comme ça, on se regarde.
Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va recoller les morceaux. On va essayer de savoir où est-ce qu'on en était, nous, quand on a quitté le game du podcast. Hein, forcément, on a été un peu absent ces derniers temps. Et donc là, on va simplement recoller les morceaux, finir un peu la saison 1, qui aurait dû se finir déjà depuis longtemps, malheureusement. Mais bon.
Puis belle lurette.
Yeah. Ouais. Et joyeux anniversaire en retard, d'ailleurs.
On n'a même pas pu fêter nos 1 an. Ouais. Bah oui, c'est trop triste.
On a eu 1 an. Oui, les
noces de coton. On a fait un vieux Skype, là.
Franchement,
mais c'était sympa, mais on n'était pas là physiquement.
Sachez, auditeurs de This Week, on aurait dû fêter nos 1 an avec vous, normalement, mais malheureusement, le confinement oblige. Et puis surtout, nous, technologiquement parlant, on n'était pas prêts pour faire des adaptations confinement ou quoi. On aurait bien aimé, mais pas de câble USB ou quoi, des trucs comme ça. Bref,
on tourne encore pas d'ordinateur. C'était la merde.
Ouais, et puis surtout, enfin bref, on va en parler de tout ça. On va essayer de savoir un peu comment ça s'est passé pour vous, comment ça s'est passé pour tout le monde autour de la table, comment vous avez vécu votre confinement aujourd'hui. Puis aussi, ce que vous avez vu aussi pendant ce confinement. Donc, tout ça, ce sera abordé dans cet épisode un peu spécial, hein, simplement pour recoller les morceaux et puis basculer sur la saison 2 plus tard. Tout de suite, on passe à la BA. Ah bah non.
À la BA de quoi ?
Il n'y a pas de BA.
La BA du retour ?
La BA de rien du tout. La BA de rien du tout. En fait, j'ai simplement une question pour vous, c'est comment ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est l'émission de France 2.
Non mais déjà, il y a un truc qui est cool, c'est que personne autour de cette table n'a été malade. Non, ça c'est chouette déjà.
C'est vrai, il faut le préciser.
Ouais.
Une légère gastro-entérite.
Ouais.
Mais bon, rien
de ça. Ça fait longtemps que j'ai entendu quelqu'un dire en entier, tu sais, gastro-entérite.
J'aime bien parce que je trouve que c'est beau, il y a plein de syllabes, ça me plaît.
Gastro-entérite Covid-19 aussi, il y a plein de syllabes.
Non, il y en a moins. Gastro-entérite.
Coronavirus. Comment avez-vous vécu, vous, les amis ? Ça fait... Je compte même plus les jours.
6 501 759 secondes.
Calculateur.
Merci.
Mais qu'est-ce que tu fais là ?
Ça va, le calculateur ?
Ça va.
Ça va bien ?
Combien... Oui.
Répète-nous combien de temps ?
108 362 minutes et 39 secondes. 1 806 heures 2 minutes et 39 secondes. 75 jours 6 heures 2 minutes.
Stop. Abrèche. En gros, ça fait combien ?
2 mois et demi.
Merci, le calculateur. Deux mois
tout
et demi.
Ça pour dire voilà. Ça.
Deux
plus
mois
utile
et
qu'un calendrier.
Deux mois et demi sans se voir, deux mois et demi sans ciné.
Vous m'avez comment... manqué.
Bah, tu nous as manqué aussi, ah bah oui. Mais comme un
mais t'étais pas chez Romain.
Romain ne m'a pas allumé.
Qu'est-ce
que tu racontes ? Pendant deux mois.
Je t'ai fait des petites modifs. Qu'est-ce que tu racontes ?
Tu le touches plus, Romain.
Mais
tu
si, je l'ai touché. Je l'ai touché au début. Je t'ai touché au début.
Tu ne me touches plus.
Je t'ai touché au début. Au début, je t'ai touché, je t'ai trituré. Rappelle-toi.
C'était juste pour faire F5 sur Pornhub.
Allez, enfin, allez fermez-moi le calculateur. Tu l'éteins, Arwan, s'il te plaît.
Piou.
Merci. Donc oui, deux mois et demi sans se parler. Deux mois et demi donc, pendant lequel le monde a été confronté à une première. Le monde s'est enfermé chez lui. Chacun s'est cloisonné afin d'éviter au virus de se propager. Et
on a réussi.
On a réussi, on en est sorti vivant. Hein. On y est. Mais qu'avez-vous fait ? Comment avez-vous vécu ça ? Et c'est ça que moi j'ai envie de savoir et que la France a envie de savoir, les amis. Qu'avez-vous fait pendant ces deux mois ? Je veux savoir. Vous tous autour de la table, je veux savoir ce que vous avez fait pendant ces deux mois. Clémence, ces deux mois.
Oh bah écoute, ces deux mois, ils ont été très particuliers pour moi parce que ils se sont résumés à un jeu. Animal Crossing New Horizons.
Tu fais partie de la secte.
La faiblesse,
elle
la
est
faiblesse.
Devenue une vendeuse de navets professionnelle.
Oh bon sang, je fais partie de ces gens bénis qui ont vu arriver le jeu pile au moment du confinement et qui ont pu en profiter pendant ces deux mois. Et d'ailleurs, maintenant, j'en ai marre. Parce qu'on est déconfiné, j'en ai marre, j'ai décroché, mais c'était
tu vends plus du Vivano dans Animal Crossing.
En même temps, si j'ai bien compris, Animal Crossing, c'est un jeu qui, la météo se cale sur la météo actuelle. C'est-à-dire qu'en gros, s'il fait beau chez toi, il fait beau dans Animal Crossing, c'est ça ? Donc comment tu veux jouer s'il fait beau chez toi ? En fait,
non,
parce que j'ai vu un pote jouer alors qu'il pleuvait dans son jeu, alors qu'il faisait super beau.
Oui, en fait, il y a un petit côté frustrant là. Je sais pas pourquoi les deux dernières semaines il pleuvait tout le temps alors qu'il faisait beau dehors. Mais bref, on s'en fout.
Il s'est 5 étoiles ?
Du coup, son île, elle a été inondée. tout le monde est à l'abandon. Clémence, s'il te plaît, reviens.
Par contre, le cours du poisson, il a augmenté.
Non, les fleurs poussent quand il pleut. Les fleurs poussent.
D'accord.
Ça, c'est chouette.
Deux mois d'Animal Crossing, alors du coup, de Animal Crossing est sorti juste au début. C'était
ah, mais attends, mais mon gars, j'ai terraformé une île, mais j'aurais pu créer une nouvelle planète, tu vois. On m'a pas donné un jeu à ma mesure, quoi.
D'ailleurs,
j'en ai fait le tour, là, j'ai fait mon île, c'est devenu.
D'ailleurs, faut que tu saches que la fusée qui a décollé hier, c'est Clémence.
Oui.
Elle a lancé depuis Animal Crossing.
Ça, c'était à sa mesure.
Est-ce que tu cultivais des patates sur ta planète ou pas ?
Non, je pêchais des poissons et je les revendais. Et j'étais aussi spécialisée dans les papillons et le
lumière.
Fait d'attraper des papillobilianor qui sont magnifiques papillons bleus.
Très belle espèce.
Et ça existe en vrai ?
Ah oui, tout existe en vrai.
Ouais.
Ah, mais j'ai appris tant d'espèces de poissons, tant d'espèces d'insectes.
Merci,
c'est incroyable.
Merci Animal Crossing.
Merci Nintendo. Kevin, t'as fait quoi pendant ces deux mois, toi ?
Ah bah, j'ai pas fait grand chose.
Sachant
que
vous êtes en coloc.
Ouais, on est en coloc.
J'ai regardé Clémence pêcher des poissons.
Moi, il y avait Clémence qui jouait à Animal Crossing. J'étais, bah, tu veux pas qu'on fasse. Non, d'accord.
Oui,
mais regarder des trucs.
Cuisiner.
Non, beaucoup de jeux vidéo. Beaucoup de films. Beaucoup d'animés japonais aussi.
Et comment t'es paru le temps
Il était au début ça va, c'était long mais tranquille. Au bout d'un moment t'en as marre, t'as envie
parce
de voir des
savoir,
gens en 3D quoi.
Il faut savoir pour rappeler que Manu nous avait dit quand même cette magnifique phrase qui est celle-là.
Nous sommes en guerre.
Nous avons été lancés au départ sur deux semaines de confinement qui se sont transformées en un mois assez rapidement. Et ensuite, un autre mois a été rajouté à ce mois déjà
vécu. Mais en même temps, s'il avait annoncé deux mois direct, les gens se seraient suicidés.
C'est ça, après.
Qu'ils ont bien fait quand même.
Après, ouais, on a bien fait. Après, c'est vrai que tout le terme de la guerre et tout, moi je m'en suis un peu battu les couilles. Je me suis dit, c'est quoi ça, c'est juste de la politique, on s'en tape. Ça m'a pas fait peur.
Je pense que c'était du sensationnel pour que les gens réalisent que c'est un truc important.
Je me dis, le gars, il veut avoir du public, quoi. Donc il dit la guerre, paf.
Donc si je résume, Clément sur la Twitch en train de jouer à Animal Crossing et toi sur la PS4 en train de...
d'analyser les discours de Macron.
Surtout regarder des animés.
Ah si, je regarde plein d'animés.
Ah, je peux témoigner que t'as regardé beaucoup d'animés.
J'ai beaucoup joué, j'ai aussi refait plein de jeux que j'aime beaucoup.
On va y arriver à votre co-vidéo club, ce fameux nom qu'on a trouvé pour notre rubrique de recommandation de ce qu'on a regardé nous pendant le confinement, le co-vidéo club. On va venir à ce que vous avez vu. Johanna, toi,
Salam.
Ce confinement. Comment l'as-tu vécu ces deux mois comme ça, hors du temps, enfermé, à regarder le printemps par la fenêtre ?
Ben écoute, j'étais en grosse période d'activité juste avant le confinement. Du coup, ça a été un arrêt net qui m'a fait beaucoup de bien, je dois l'avouer. qui m'a permis de me replonger dans plein de projets qui étaient en route et que j'avais pas le temps de développer. Et d'ailleurs, je vous donne un spoiler alerte, je suis en train d'écrire un petit film là. Wow. Qui va relancer le cinéma.
Oh, Tenet.
Putain, je réécris Fourmis en live action.
Ça, c'est un projet.
Et je veux Gérard Darmon dans ce film.
Erwan, comment vas-tu depuis ces 2 mois et demi, ces 8665 secondes et régulateur, je sais plus ce que tu avais dit. Depuis tout le temps où on s'est pas vu, comment ça s'est passé pour toi, cet isolement?
Un sacré paquet de secondes, ouais. Bah écoute, moi ça va très très bien. J'ai vécu un peu pendant ce confinement ma meilleure vie. Moi c'est...
Ah ouais.
C'est, je veux dire, il y a un moment où sortir me demandait de faire des efforts, enfin de... On demandait de sortir, d'aller jusqu'à un tel point pour aller voir des potes, tout ça. Enfin, je me disais,
ah ouais, t'allais voir des potes en plein confinement?
Non, avant. Mmh. Avant, ah oui,
ah,
non, non.
Oui. Ah, oui,
justement,
tu fais le préquel,
justement,
là.
Le...
voilà,
il y a le préquel,
il fait une bande annonce.
Le préquel, c'est que du coup, moi j'ai surkiffé, enfin, de devoir rester chez moi, de me réveiller tranquillement, d'aller de mon lit à mon PC pour faire ma journée de travail, et après de faire de mon PC à mon lit pour terminer ma journée de travail. Donc plutôt bien.
T'as fait que j'ai travaillé et dormir.
Exactement. Mais
dit comme ça,
j'ai fait boulot dodo sans le métro.
On imagine la petite musique classique en BO derrière.
C'est ça, mais oui.
Le mec qui ferme l'ordi. Ah, j'ai bien travaillé.
J'ai sommeil.
Sinon, j'en ai profité pour faire des choses que je ne faisais pas, par exemple du sport.
Wow.
C'est vrai.
Et on
peut le confirmer.
Oui, oui, mais
t'es
magnifique.
Vous voyez pas les auditeurs, mais
magnifique.
Arrêtez, ça me gêne.
Erwan me complexe totalement autour de cette table parce que Erwan est l'antithèse de moi-même. Là, tu as fait tout l'inverse de moi, c'est-à-dire que tu t'es embelli pendant ce confinement. Tu as fait du sport.
Mais tu te déprécies, Romain.
Tu te déprécies, t'es resté pareil.
On en parlera quand on viendra à moi, mais tu verras que mon deuxième mois de confinement, c'était tout l'inverse.
Deux choses.
Mais
juste deux choses.
Magnifique, Erwan, ouais. Tu es magnifique et tu es svelte et fit comme on l'aime. J'ai envie de mettre du chocolat sur ton corps et de te lécher jusqu'à.
Ça va trop loin, on va se calmer. Ouais,
je te conseille plutôt la chantilly, mais sinon, non, j'ai deux choses. J'ai fait du sport et j'ai commencé à prendre soin de ma barbe.
Et ça oui. Se voit d'ailleurs.
Petite
elle est bien,
tuile de barbe,
bien
petit peigne à barbe. Et, c'est ouais,
une
ça...
Très belle
et
barbe.
Ça se voit à l'extérieur.
Très beau corps, très belle barbe. Tu es un très bel être.
Merci ouais. Romain. On se revoit tout à l'heure.
tout à l'heure à la pause café, bien sûr.
Podcast.
Clément.
Oui, bonjour.
Quel plaisir de te revoir, Clément. Tu m'avais manqué.
Bah ouais.
Mais comme Jaja.
Comme Jaja, oui, Jaja, il nous a manqué aussi. Oui, bon, Christophe Jallet, bien sûr. Non, mais ça a été, j'ai fait un mois de glandouille. Vraiment, hein, série, film, voilà, glandouille. Et puis un mois un peu plus productif où je me suis mis à écrire. Donc pas mal de projets d'écriture, voilà. Et c'est un peu le déconfinement que j'ai un peu mal vécu, je t'avoue.
C'est vrai.
J'aurais bien prolongé un peu, ouais. Personnellement.
C'est vrai que ça a chamboulé quand même pas mal de choses, ce confinement, ce déconfinement, cette nouveauté, quoi. C'était...
J'ai eu du mal aussi avec le déconfinement,
bizarre,
j'avoue.
Bizarre.
Les premières courses post-truc ont été bizarres. Les premiers. Ouais, les même je
me sentais pas prête à braver la lumière, tu sais.
Ouais. D'accord. C'était
étrange.
C'était quelque chose d'étrange.
Et toi, Romain?
Ouh, alors, ouh là là.
Ton confinement.
Bah, tu sais, moi, à l'annonce du confinement, c'était un rêve qui se réalisait. Hein. Vraiment, vraiment, clairement. Restez chez vous, ne sortez pas de chez vous, n'allez pas travailler. Mais je fais, mais qui est le dieu derrière tout ça? Voilà.
Horrible.
Dieu pangolin, merci. Merci à toi, pauvre petit être qui s'est décidé de manger un jour un être en voie d'extinction comme ça et qui a certainement enfermé le monde entier dans un seul cercle à un moment. Mais cet homme-là ne savait pas ce qu'il faisait et je le remercie.
Je crois que c'est la pire description du Covid. J'ai entendu.
C'est clair.
Un mec qui a
mangé
une espèce et il a enfermé tout le monde dans un cercle.
Inch'Allah, il est mort hein, parce que franchement, le poids de la culpabilité sur lui doit être énorme. Non, mais franchement, le premier mois de confinement s'est annoncé en fait comme du pain béni. J'ai adoré ça. Je me suis retrouvé avec moi-même, me disant la vie s'offre à moi. Regardez, même si nous étions enfermés, même si les choses devaient changer, j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais très content de ne plus avoir à me sociabiliser avec
les gens. Et je précise qu'on est tous restés à Paris. Hein. C'était pas en mode, on était en maison de campagne, je sais pas.
Non, personne n'a fui vers la campagne.
On est tous restés en Paris et banlieue.
On fuit pas, nous.
On n'est pas des fuyards. Donc, non, le premier mois, je peux t'assurer que vraiment, c'était la vie idéale. Je rêve de ça depuis très très longtemps et j'aimerais que ce soit comme ça tout le temps. Malheureusement, il s'est avéré que dans cette nouveauté de confinement, ce nouveau mot, en plus, qui connaissait ce mot avant ? Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Confinement, du coup, on s'est confiné, on s'est retrouvé enfermé. Donc oui, au début, la culture, oula, vas-y, je vais trop faire le gars, je vais m'imprégner de choses que je n'avais pas vues.
Là, vous ne voyez pas, mais il y a une super danse. Visuellement, c'est
l'air vivant. C'est super beau. On dirait qu'il
s'imprègne vraiment. Regardez ce qui s'offre à moi et tout. Et puis quand Edouard Philippe s'est annoncé vraiment sur le deuxième mois et tout, alors là, la perdition totale. Là, vraiment, j'ai vu qu'il y avait Naruto sur Netflix, on n'a plus rien donné de moi. Je me suis retrouvé comme un gros lard à regarder Naruto en bouffant des esquimaux.
C'est de la culture aussi, Naruto.
Oui, bah, ça a été quelque chose. On en reparlera sur les recos dont on va parler après. Mais vraiment, le deuxième mois a été très difficile dans le sens où je tournais en rond et tout. Et au final, voilà, tu avais le choix entre être productif. Tu te dis, ce temps-là, tu ne l'avais pas avant. Soit est-ce que tu veux être productif ou bien est-ce que tu veux profiter de ce moment pour ne rien faire comme tu en as toujours rêvé. Voilà, on est de retour aujourd'hui, c'est pas pour rien. Hein.
Ouais, mais moi je pense que c'était une bonne chose aussi que beaucoup de gens ont profité pour ne rien faire. Moi par exemple, j'ai retrouvé le plaisir de me poser pendant 30 minutes et de rien foutre quoi. Je regardais l'herbe parce que j'ai la chance, il y en a un petit bout de jardin.
J'ai la chance d'être fumeuse.
Et je fixais l'herbe dans le jardin pendant 30 minutes et c'était du temps pas du tout productif et j'étais très contente de ce temps-là quoi parce que. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps de m'ennuyer. Mmh. Et je trouve ça génial de s'ennuyer.
Moi, j'ai eu un moment au-dessus du temps aussi, je me rappelle, alors que nous étions là en train de regarder le printemps par la fenêtre, ces rues désertées de gens qui.
Genre, le printemps par la fenêtre, tu l'as écrit.
Plus aucune âme qui n'osait comme ça se mélanger, des gens un peu plus parano que d'autres fois. Et. Alors que tout était là, alors que la rumeur de la ville quand même existait.
T'as le mec qui se prend pour Apollinaire, c'est fini.
Et je me souviendrai toujours de ce moment où je me suis retrouvé là, comme ça, dans mon appartement, aux alentours de 22h, 23h, à contempler ce petit moment de 15 secondes de silence pur. Et ça existait juste à ce moment-là. Plus rien. Pendant 15 secondes, plus rien. Juste rien.
ASMR, rien.
C'était magique. Et ça... Hors confinement, je crois qu'on l'aurait jamais vécu. Après, sinon, à part ça, je me suis complètement fait chier. Hein. Mais d'une force. J'ai quand même regardé des choses. Je me suis quand même bien abruti la tête. Je sais pas ce que vous avez regardé, vous. Et c'est ça qu'on va essayer un peu de savoir avec notre Co-Vidéo Club qui s'ouvre aujourd'hui. Co-Vidéo Club, c'est pas un super mot, ça. En tout cas, on a regardé des choses et on s'est pas laissé avoir par l'ennui total, même si les salles de cinéma, je sais pas vous, en manquaient. Moi, elles m'ont manqué. Tellement,
ah ben c'est clair. Et des fois je regardais des films chez moi en éteignant tout pour faire genre je suis au cinéma.
Ouais. Et moi je jouais un mec qui vend des popcorn.
Ouais. Moi des fois je me mettais devant Clémence pour qu'elle ait l'impression qu'il était un mec.
Oh putain il fait chier celui-là, allez aux toilettes là, on est en plein milieu du film.
Je passais comme ça.
Comment vous, à avoir ces stratégies-là dont vous avez parlé,
qui sont intéressantes,
comment vous avez réussi comme ça à combler ce manque de cinéma qui, pour moi, était trop fort et qui est encore trop fort aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez regardé pendant ce confinement ? Qu'est-ce qui vous a permis de ne pas perdre la face ?
Et déjà, est-ce qu'on ne peut pas dire un truc général qui est qu'on est devenu complètement accro aux plateformes de streaming et à toutes ces plateformes ? Encore plus qu'avant.
J'avoue que on a bien buté au CS.
Si on faisait un petit sondage des abonnements, des prises d'abonnements sur ces plateformes, putain, je pense qu'ils ont explosé. Quoi.
On est d'accord que comme pour Animal Crossing, ça a été le meilleur moment pour sortir à ce moment-là, ou du moins pour proposer des offres nouvelles aux gens. Quoi. C'est clair
En plus, Disney Plus est sorti pendant cette période. Quoi. Oui. Moi, personnellement, je m'en fous de Disney Plus, mais il y a plein de gens qui ont dû le prendre. Quoi.
On l'a fait, nous, avec ma colocataire.
Ah bah nous, on l'a gratuit jusqu'à 31 juillet parce qu'on a Canal, mais...
Erwan, comment tu as occupé ces deux mois ? Qu'est-ce que tu as regardé ? Qu'est-ce que tu as à nous proposer là ? Qu'est-ce que tu as dans ta besace ?
Alors, pour rebondir sur Disney+, c'est vrai qu'on s'est laissé tenter, hein, parce qu'il y avait les 15 jours gratuits. On n'a pas fait plus. On a regardé ce qu'on avait regardé, c'est-à-dire les derniers Disney que je n'avais pas vus, c'est-à-dire Vice Versa. Et...
What ?
Moi, je ne l'ai toujours pas vu. Hein.
Ça arrive, non, mais je ne l'avais pas vu et je l'ai vu et aucun regret. Ça valait le... l'abonnement gratuit à Disney Plus pendant 15 jours.
Ça valait le, pas d'argent.
Voilà. Le rapport qualité-prix était bien.
Après,
mais rien payé pour ce film.
Après, j'avoue que moi, tout à l'heure, on parlait de confinement et de comment est-ce qu'on l'a vécu cinématographiquement parlant. C'est vrai que j'ai eu une grosse. En fait, j'ai eu une petite période au début où je me suis dit, ok, on va profiter de ce moment pour regarder plein de choses qu'on n'a pas vues, pour refaire un peu notre culture. Et j'ai pris Disney+, on s'est fait les 4...
j'ai regardé Avengers Endgame.
Ouais, on s'est fait les 4 Pirates des Caraïbes.
Et bien ou bien Disney+, alors du coup
bien, en fait, tu fais très vite le tour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as vu les dessins animés que tu as envie de revoir, vite fait, les séries originales, parce que tu apprends plein de choses sur les Imagineers, tout le côté, les Disneyland... En fait, les Disneyland, en fait, les parcs.
Oui, il y a des documentaires Disney, sur les parcs.
Des documentaires, des séries documentaires notamment. Qui sont vachement intéressantes. À part ça, voilà, tu revois les films que tu avais envie de revoir et puis une fois que tu as vu ça, c'est
fini. Et t'as pas eu un petit truc à croquer, un petit truc à nous partager là, comme ça sur Disney+, parce que franchement ça propose pas forcément ce qu'on connaît nous de Disney. Il doit y avoir des petites surprises qui traînent comme ça sur Disney+. Non, t'as rien vu?
Ah, Disney+, non. À part un truc très chouette qui s'appelle High School Musical. The Musical, The Série.
Mais oui,
la série.
Alors, ok, attends, c'est
génial.
Une pause.
Oh, hop là.
Hop, faisons une pause. Répète.
High School Musical, The Musical, The Série.
The Série. Alors, ok. Donc, si je traduis.
Voilà.
Pourquoi ils ont rajouté The Musical?
Alors, parce que en fait, c'est une. C'est, en fait, faut voir ça comme Glee. C'est-à-dire que c'est une série comme Glee. C'est une série où on va suivre des personnes qui montent un musical. Donc une
comédie musicale. Ah, tu veux
musicale.
Dire a musical.
Ah oui.
Oh, ok.
Okay, a musical.
High School Musical. C'est le principe du film High School Musical.
The Series. Et en fait, ils reprennent le film High School Musical, là où dans High School Musical, ils font une comédie musicale qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une série qui reprend une comédie musicale sur High School Musical, donc on cherche celui qui va jouer Troy Bolton.
C'est digne de Nolan.
On l'a perdu.
Franchement, on dirait Bruno qui décrit.
Mais
un
en
film.
Fait, tu te réveilles et t'es encore dans le rêve.
Et c'est une série. Donc wow. c'est assez compliqué.
Et tu ne le conseilles
mais alors non.
Mais attends, une question. Est-ce qu'il y a Zac Efron dedans?
Les deux, oui.
Non, alors ça n'a pas d'intérêt.
Il y a une personne qui joue Troy Bolton, il y a une personne qui joue, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Gabriela
quelque chose, Larquez, voilà.
On a une fan.
Donc,
autour
okay,
de la table.
Pour résumer, nous avons une série sur la création d'une comédie musicale sur High School Musical. Donc, voilà. High School Musical est quelque chose qui existe.
Oui.
Et donc, du coup, le truc, il est méta dans le sens où c'est des gars qui essaient de refaire High School Musical.
En musical.
En musical, et c'est la série en fait qui
tout
est tournée autour de ça.
D'où The Musical, The Series. When I heard that the high school where High School Musical was shot had never staged a production of High School Musical, the musical, I was shocked, inspired, and triggered as a millennial. Auditions are after school. I've seen the original movie 37 times, and the first 15 minutes of both sequels. It would be insane to think I might actually have a shot at playing Gabriella. I know we're not a couple anymore. It was my idea to take a pause. I didn't want to take a pause. I can't believe it. She's dating EJ Haswell. This is a nightmare.
Très bien, mais j'irai pas regarder.
Finalement, c'est très logique.
Tout ça pour vous dire de pas y aller. En plus.
Après, je t'avoue que du coup, on a plus saigné Netflix.
Oui.
Forcément. Où j'ai découvert une vraie série que je recommande aux gens qui s'appelle The Last Dance.
Last
Dance. Ah, trop bien.
Last Dance. Dance.
Last Dance.
The Last Dance. Ah, ok.
Voilà. Starring Michael Jordan. Série documentaire sur en fait le dernier titre de Michael Jordan.
Donc titre championnat qu'il a gagné quoi.
Voilà. Et en fait le dernier titre de championnat qu'il a gagné, sachant qu'en fait il avait gagné 3 championnats d'affilée. Avant ça, il avait gagné 3 championnats d'affilée. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans le sport américain. Et très bonne série que je n'ai pas terminée encore à l'heure actuelle. Mais très intéressante dans la façon de narrer en fait l'histoire, parce que le fil rouge en fait est cette dernière saison, donc 98.
La dernière de Michael.
Dernière de Michael, avant dernière de Michael, parce que en fait il prend sa retraite après, il revient, parce qu'en fait faut savoir que Michael Jordan a pris deux retraites.
Il a fait du baseball et tout.
Ouais, bah ça c'était avant, et après du coup il a pris sa retraite
et
il est revenu en 2000.
Golf.
Ça, c'est dans Space Jam.
Ah, pardon.
Ouais, Space Jam qui est au final, pour moi, The Movie, hein, mais...
On y reviendra, t'inquiète
mais,
pas.
J'espère, dans quelques mois.
Premier film que j'ai vu au cinéma.
Non, c'est
et donc, grosse reco pour The Last Dance.
Grosse reco pour The Last Dance.
The Last Dance sur les Chicago Bulls et notamment
Michael Jordan.
Sur Michael Jordan. Et les plus... Chicago Bulls plus généralement.
Mais sur l'homme, ouais. Sur la carrière. Sur...
Et avec une temporalité où en fait le fil rouge est cette saison de 98, mais ils reviennent depuis le début de la saison de. Enfin, le début de la carrière de Michael Jordan. Et donc, en fait, chaque épisode revient un peu en arrière. En fait, en 10 années de Michael Jordan au top. Au Chicago Bulls, c'est la seule année où ils ont accepté de se faire accompagner par un documentaliste, enfin oui. Quelqu'un
et
qui
et
va.
Ça sort que maintenant, du coup.
Et ça sort que maintenant. Alors pourquoi bonne raison ? Enfin bonne question, pardon. Bonne raison. Il y a des bonnes raisons. Bonne raison, je sais pas.
Du coup, plein d'images exclusives. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous allez retrouver plein de basketteurs. Enfin, pour ceux qui suivent la NBA, en fil rouge, plein de basketteurs qu'on adore. Notamment, il y a un épisode. Consacré, dédicacé à Kobe Bryant, qui a commencé quand Jordan finissait, à peu près.
You have to wonder why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be in effect driven out of professional basketball.
We're entitled to defend what we have until we lose it.
The only question, how long can it last?
Et toi, Johanna, justement pour rebondir, vu que tu as pris la parole. Qu'est-ce que tu as regardé, toi, pendant ce confinement ?
Bah, je t'ai dit, le gazon.
La pelouse.
Gazon, ouais. Gazon maudit, gazon 2, gazon 3. Moi, j'ai, du coup, avec le rythme que j'avais, je n'arrivais pas à regarder des séries qui étaient déjà terminées. Donc, comme vous savez, j'ai commencé Breaking Bad il y a longtemps et je n'arrive pas à trouver le temps de terminer. Et il y a quelques années, quelqu'un m'a offert un coffret de The Wire, donc qui s'appelle Sur Écoute en français, que j'ai commencé il y a quelques mois. Et là, je me suis dit que j'allais prendre le temps de terminer. Et pour moi, cette série est du génie absolu. C'est un travail, donc le showrunner est un ancien journaliste qui travaillait à Baltimore et qui profite de chaque saison sous couvert d'enquêtes de démantèlement d'un réseau de drogue et d'écoutes téléphoniques. Il aborde tous les aspects de ce qui déconne à Baltimore. Donc, t'as une saison sur le trafic de drogue en lui-même, un sur le port de Baltimore, qui paraît anodin et différent de la saison 1, mais en fait, ça met en place la suite. T'as un sur la presse, sur l'éducation, la politique et tout ça. Et en fait, ce qui est assez génial dans la série, c'est les personnages et c'est le temps d'écriture. C'est-à-dire qu'il pose vraiment un univers et il prend le temps de l'écriture. Je ne sais pas si cette série, elle serait possible maintenant.
The Wire, c'est quoi ? C'est début 2000, un truc comme ça, je crois ?
Ouais, c'est ça. Ça a commencé là, c'est fini en 2008.
Ouais, donc ça a commencé quoi ? En début 2000 et
c'est ça,
ça
bah, la première saison, elle est sur fond de 11 septembre
c'est
un peu.
Que, ouais, c'est une des séries qui est le plus citée, en tout cas, comme une des séries les plus marquantes. Depuis.
Ouais, elle est souvent dans des top 5
ouais,
de meilleures séries.
Vraiment, dans les meilleures séries. On...
Et elle n'avait pas marché à l'époque où elle était sortie, c'est ça qui est marrant.
The Wire, ouais.
Et elle a dévoilé aussi plein de comédiens. Il y a Michael B. Jordan.
Idris Elba.
Il y a Idris Elba. Il y a le gars, Littlefinger, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est dans Game of Thrones.
Peter Dinklage.
Voilà, il y
non.
est.
Ah non
non.
Non. Non. Non, Little de...
non. Celui qui est plus grand.
Oh là là. Non, je ne vais pas couper ça, ça reste. Bon, bah les couilles.
Non,
ça va, j'assure.
Et enfin, bref, et tous ces acteurs-là, enfin, il y a plein de têtes connues qu'on a retrouvées au cinéma et dans d'autres séries après. Et c'était vraiment un plaisir quand ça m'a touché alors que je connais.
Et ça a occupé une grande partie de ton confinement de
bah,
de
oui, oui.
T'as pris le temps du coup.
Il y a 5 saisons et c'est assez long, enfin, le rythme est assez.
C'est 5 saisons qui font entre 8 et 12 épisodes en fonction des saisons, de 52 minutes le format. Mmh. Et voilà, franchement,
donc,
voilà,
du coup, le genre, c'est quoi de cette série ? Quelle ambiance ?
C'est du policier, mais très social. Très, très, très social.
Policier social.
Bah, on sent le boulot journalistique, c'est-à-dire qu'il va vraiment chercher dans le... comment le macro, enfin, donc la sphère politique, une décision politique, par exemple, va aller jusqu'à influer la vie du petit mec qui habite dans une tour, dans une cité à Baltimore. Mmh.
En fait, je pense pouvoir dire que tu passes autant de temps dans la vie policière, c'est-à-dire les enquêtes, tout ça, que dans la vie du truand et de tout gang, en fait.
Et il y a un truc aussi qui est assez bien montré, c'est que comme c'est un microcosme quand même, enfin ça paraît être un microcosme Baltimore, dans les flics, dans les policiers noirs notamment, il y en a qui ont grandi dans les tours Et petit à petit, au fil des saisons, il construit une espèce de relation entre les dealers et les policiers qui finissent par ils se connaissent par cœur, quoi. Ils se font arrêter toutes les deux semaines.
C'est une série qui prend son temps, quoi.
Et ça prend son temps. Et au fait, au final, ça raconte aussi les destinées, quoi. Pourquoi des mecs qui ont grandi au même endroit, avec des mêmes conditions pourries, finissent avec des destins différents, quoi.
Et voilà, en tout cas, c'est reconnu comme une des plus grandes séries, en tout cas des bases de la série, comme on l'entend aujourd'hui. The Wire, cité avec beaucoup d'autres au début des années 2000, qui aujourd'hui est reconnu comme une grosse référence de série. C'est vrai que j'ai envie de jeter un œil à The Wire depuis que tu m'en parles.
C'est ça, mais il faut s'accrocher, ça prend son
et
temps. Mais
le confinement, du coup, t'as profité de ce temps-là pour t'y mettre, parce que il faut aussi du temps pour
s'y mettre. Exactement. There are two kinds of kids walking in this building. Stoop kids, corner kids. No, stoop kids. They're the ones that stay on the front steps when the parents tell them. The others go down to the corners. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. Get up! Get down! But you start to follow the money, and you don't know where it's going to take you. You think I have time to ask a man why he giving me money or where he gets his money from? The game is out there, and it's either play or get played. Baltimore, gentlemen, the gods will not save you. Du coup, on est sur deux séries recommandées là, vraiment à fond, The Last Dance, The Wire. Toi, Kevin, est-ce que tu as regardé des films peut-être ?
Moi, j'ai regardé des films, ouais. J'en ai vu des biens et j'en ai vu des trop pourris.
Forcément, t'as le temps.
Alors, je vais vous parler d'un bien et d'un trop pourri.
American Pie 2.
Trop bien, j'ai hâte.
Non, parce que j'ai profité du confinement pour regarder enfin mon édition Redux de Apocalypse Now que j'avais jamais vu.
Apocalypse Now.
Si tu veux dire Apocalypse Now.
Ah, Apocalypse Now.
Ah,
Apocalypse Now.
Tu parles d'Apocalypse Now. Okay,
Apocalypse Now de Roman Coppola.
Poole. En plus, c'est Poole. Francis.
C'est Francis Coppola. Roman, c'est son fils.
Roman,
non
c'est son fils.
En plus.
Ouais, t'inquiète, c'est pas grave.
Ah, bref, et j'en ai profité parce que c'était une édition DVD que j'avais achetée il y a longtemps et que j'avais jamais eu le courage de regarder, en fait. J'avais pas le temps parce que c'était 3h30. Bah, le confinement aidant, bah, on a pu le regarder avec ma colocataire. Et franchement, c'est une claque absolue, quoi. Ce film, c'est dinguerie. Je me suis dit, quand je le regardais, je me disais, mais les gens qui ont vu ça en salle,
bah, c'est clair.
Ça a dû les changer, quoi. Ça a dû changer parce que moi, je m'attendais pas du tout à un film aussi psychédélique. C'est totalement, c'est funèbre, c'est psychédélique, c'est un truc de fou. On dirait un requiem des années 70. C'est génial, quoi.
Et la photo, elle est dingue aussi.
La photo est dingue, mais tout. Franchement, il y a même pas grand chose à dire, tellement c'est bien en fait. C'est juste un film qui est presque parfait, quoi. Il faut le voir. Donc, si vous avez le temps.
La Director's Cut qui est sortie dernièrement, en fait.
C'est celle-là, ouais, Redux avec.
Il y a Redux et la Director's Cut qui est sortie après.
Alors, ouais, non, j'ai vu celle de Redux juste
là,
avant.
C'est
la
pas
dernière.
Récent, c'est un DVD. Hein. C'était ouais, pas ouais, un Blu-ray, c'était un DVD.
Moi, j'ai la Redux aussi.
C'est peut-être l'édition de fin 80, ce qui est la ressortie une, et c'est celle-là, je crois.
En tout cas, si vous n'avez pas vu Apocalypse Now, écoutez Kevin et matez-vous ça.
Il faut regarder.
Et moi, je l'avais vu, on l'a regardé ensemble, du coup, et je l'avais vu quand j'avais 17 ans à peu près, et ça m'avait marqué comme un film que j'avais adoré, mais de le revoir, c'est incroyable. D'ailleurs, je pense que c'est le genre de film, le genre de chef-d'œuvre qu'il faut revoir à peu près tous les 10 ans ou à différents âges. Parce que tu le vois pas de la même manière.
Ça fait du bien.
Et je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais vu Apocalypse.
Et ben regarde,
il
est jamais trop tard.
C'est une honte que je me trimballe depuis très
non,
longtemps.
C'est pas une honte, hein. Franchement, non, tu roules en gros et tu le regardes, tu vas kiffer.
C'est pas une honte. Ah bah oui, en plus,
j'ai envie de me lancer. Je me suis déjà lancé en plus. J'ai fait 15 minutes et je sais pas pourquoi. J'ai une espèce. Je sais pas, j'ai une entente bizarre avec ce film.
Mais si tu veux, Romain, les 15-20 premières minutes représentent beaucoup ce qu'on se fait comme idée de Apocalypse Now, qui est la guerre au Vietnam et la marche des Valkyries, les hélicoptères qui viennent bombarder. Ça, c'est le début du film. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai redécouvert, alors que je l'avais déjà vu pourtant, mais que je me souvenais pas bien, c'est que ça, c'est que le début. Et après, ça part sur des mecs, le héros et d'autres mecs, toute une équipe qui sont sur un bateau et qui remontent tout le Vietnam jusqu'à la Malaisie pour aller chercher un gars qui a déserté l'armée. Enfin, qui est dissensieux et qu'on veut arrêter. Et en fait, c'est un gros survival derrière. C'est juste un truc vachement en huis clos sur leur bateau, où à chaque arrêt, il y a toujours un danger, que ce soit sauvage ou de la guerre, les gens qui sont là pour faire la guerre, ou les gens qui colonisent, ou le peuple autochtone. Et en fait, ils sont en tension permanente, et c'est le bad permanent, mais c'est pas que la guerre, tu vois, dans le sens classique d'une guerre qu'on imagine.
Beaucoup, et puis c'est total psyché, quoi. C'est pas un film de guerre comme auquel tu attends. C'est
mystique, quand même.
C'est mystique, ouais.
C'est un film aussi qui dépasse, par rapport à l'histoire de son tournage, qui dépasse aussi, comment dire... L'entendement,
j'ai envie de dire. Oui, qui a été mystique aussi au niveau du tournage. Voilà,
c'est légendaire.
Qui trimballe aussi beaucoup de légendes urbaines par rapport à son tournage et à son directeur, enfin, à son réalisateur. T'as regardé quoi d'autre de merde là?
Ouais, j'ai regardé un truc de merde, mais c'est trop bien quand même. C'est-à-dire que c'est un bon film de merde, mais il faut le regarder. Ça s'appelle
Camping.
La couleur tombée du ciel.
Oh putain, c'est Lovecraft. J'adore la nouvelle.
Alors,
quoi.
La couleur tombée du ciel, c'est une adaptation, comme disait Clément, de la nouvelle de Lovecraft, qui je trouve super bien. Et ils ont fait un film avec Nicolas Cage.
Ouais.
Déjà.
Éleveur.
Déjà.
Attendez, éleveur d'alpaga.
Oui.
Dans le Montana.
What?
D'alpaga. Ok.
Oui, des alpagas. Des alpagas. Pour l'instant, j'entends que des qualités.
Et voilà, et t'as le pitch de la couleur tombée du ciel, donc la météorite qui tombe et tout l'environnement qui commence à muter de manière un peu extraterrestre.
Parce attends, que c'est l'adaptation de film, d'adaptation de livre.
Attends,
de livre
moi
de
j'ai une question déjà, parce que dans le livre, la couleur, elle est décrite. En fait, la façon dont elle est décrite, c'est assez dingue. Et c'est une couleur qui n'existe pas et qui est indescriptible. Non. Ouais,
mais
non.
Meilleure c'est couleur
rose.
Du monde.
Je suis pas d'accord.
Là, c'est rose. The end.
Non, mais
c'est
trop bien.
C'est pas que rose, c'est la dominante de rose, mais c'est aussi un spectre arc-en-ciel autour du côté... rose. Comme si t'avais fumé.
La non, couleur, mais pas besoin de le décrire. C'est du rose.
Pourquoi c'est pas bien?
Mais ce qu'ils ont fait génial, c'est que, en fait, ils ont. Puisque la nouvelle, ça se passe, je sais pas, début 20e, un truc du genre, et puis c'est dans un vieux village, et c'est un mec, je sais pas, il est agent immobilier, je sais pas quoi. Enfin, je crois que c'est un peu trop. Il arrive dans un village, il sait pas trop ce qui s'est passé. Alors que là, ça arrive pendant qu'il regarde la télé, il y a une météorite qui tombe. Là, du coup, t'as tout. En gros, tout l'environnement qui commence à muter, devenir extraterrestre, les animaux, ils commencent à devenir bizarres, tu vois. Et ce qui est ouf, c'est que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction narrative, c'est juste t'es dans la tête des personnages qui sont fous tout le temps. Donc en fait, ça fait un film qui est très bizarrement. Enfin, qui est très dur à regarder dans le sens où tu comprends pas ce qui se passe. Mais ça devient génial.
Et c'est qui a fait ça?
C'est Richard Stanley.
Ah. C'est celui qui a fait Hardware, Romain, qu'on avait vu ensemble
oui,
au PIF.
Nous avons vu au PIF.
Ah, vous l'aviez regardé au hasard?
Le mec qui était là et qui parlait comme un robot avec un chapeau de
cow-boy. Le cow-boy qui arrivait.
C'est ça, ouais. Et t'as un Nicolas Cage dedans qui est juste incroyable, quoi. C'est son meilleur pire rôle, je crois. C'est non, mais il faut regarder.
Ouais, du coup, ça reste bien parce que c'est Nicolas Cage.
Non, mais il faut regarder pour Nicolas Cage. Qui a des scènes mais totalement hallucinantes dans le film, tellement t'y crois pas.
On n'est pas sur un pléonasme là, en disant que Nicolas Cage a des scènes hallucinantes, il est toujours hallucinant dans
il y a eu des films où il n'était pas, mais c'est plus maintenant, c'est le Nicolas Cage d'aujourd'hui, quoi. Mais là c'est au paroxysme, c'est juste. C'est à regarder, franchement.
Je veux le voir.
Then everything just blew up. Big flash, like a pink light. Or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before.
Looks like a meteorite. You mean it's radioactive? I mean, it's from space, right? Meteorites are generally no more dangerous than ordinary rocks.
Vous aimez Nicolas Cage, vous aimez les films qui parlent de couleurs qui n'existent pas. Nous vous conseillons la
et
couleur.
Les alpagas aussi.
Vous aimez
le rose.
Ciel. Et les alpagas aussi. Bah,
Clément, Clément
a l'air emballé par la
sélection.
Je suis
totalement emballé, j'ai trop envie de le voir.
Quelle est la tienne, Clément? J'aimerais bien moi savoir ce que t'as fait toi pendant
d'accord, ce confinement. D'accord, mais je vais te le dire, putain.
Dis-moi, Clément.
Arrête de vous énerver.
Moi, donc, mon mois de glandouille, en fait, je me suis vraiment mis sur Netflix aussi parce qu'ils ont développé tout un catalogue de films de patrimoine, on appelle ça comme ça, pompeusement. Et en gros, je me suis fait tout François Truffaut,
presque
beaucoup de films qui étaient dispo de lui sur Netflix.
Donc c'est des films sur le jardinage.
Exactement, oui, Truffaut, oui, la botanique, et parce que j'avais vu que la nuit
c'est
américaine de lui,
vert.
Mais je m'en suis fait 8 ou 9, et du coup, bah, grosse reco, ouais, François Truffaut, et notamment donc, bah, les deux que moi je le plus aimé pour l'instant, c'est Les 400 coups, que je trouve qui est son premier film, qui est vraiment formidable.
Ah, te voilà toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot.
T'en ai pas, monsieur.
Ah, t'en as pas? Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami.
Monsieur, c'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Et Fahrenheit 451, que je trouve très c'est réussi. Trop bien. Un film de science-fiction très étonnant, je trouve. Film science-fiction d'auteur.
Adapté,
et qui est adapté aussi.
Adapté
de Ray Bradbury.
Très...
The books have nothing to say. So, we must burn the books, Montag. All
from the books.
Et puis côté série, je me suis fait The Leftovers que j'avais envie de terminer.
Ah, t'as fini enfin.
Ouais, que yes. J'avais envie de terminer depuis longtemps. Donc une série de Damien Lindelof et Tom Perrotta, donc les créateurs de Lost. Et ça m'a mis une baffe, mais terrible. C'est une série qui est assez connue, dont on connaît le nom, mais qui au final est pas tellement de gens ont vu en fait, et ben ça vaut le coup. Regardez, il y a 3 saisons, c'est complètement ovniesque, enfin dans le sens où la structure narrative est ultra étonnante. C'est plein de mystères qui pour certains sont résolus et d'autres ne le sont pas. Et ça vaut pour les acteurs. C'est une grosse série sur le deuil. Enfin, je trouve que le traitement du deuil est incroyable. Et voilà, donc ouais, The Leftovers, ça m'a mis vraiment.
Ouais, faut peut-être préciser que c'est pareil, il faut s'accrocher et prendre son temps.
Ouais,
parce
oui,
que
je suis assez
temps.
D'accord parce qu'on a j'avais essayé de le regarder avec Kevin et on était déjà
colocs,
un peu, enfin perso j'étais déjà un peu frustrée dès le 5e épisode parce que ça prend vraiment son temps, ouais. Que ça devient de plus en plus bizarre alors que tu n'as pas de réponse et à mon avis oui il y a des trucs dont pour lesquels t'as pas de réponse comme les meufs qui fument.
Ce générique en première saison, je suis désolé mais moi rien que ce générique,
ah, c'est un des meilleurs génériques.
Ce générique est oufissime. La portée religieuse, onirique, politique dans cette série, c'est indescriptible en fait. Je comprends ta recommandation, Clément, ouais, parce qu'en plus j'ai fini moi aussi la saison 3 à ce moment-là.
Ah, puis il y a plein de niveaux de lecture. Enfin,
exactement. Et je sais pas toi, mais moi je suis quand même allé faire des tours sur des.
Oui, pareil.
Sur des forums pour
pareil,
essayer
pour aller voir
de savoir,
des trucs.
Parce que c'est ultra mystérieux, c'est ultra interprétable en fait.
Ouais, t'as matière à avoir ta théorie.
Donc forcément, c'est ça qui est super intéressant dans cette série.
Vous faites bien de le préciser parce que moi jusque là je croyais que c'était une histoire de reste de steak caché qu'on savait pas quoi en faire.
C'est un tunnel, on savait pas quoi en faire.
Voilà, et du coup je me suis dit bah, je vais pas regarder ce truc.
Mais c'est incroyable le mec qui parcourt le monde et tout pour jeter son steak. Hein. la saison 3.
3 saisons de steak caché.
3 saisons de steak caché.
Qu'est-ce que je fais de mes restants de plats?
Non, mais après c'est vrai que je pense que c'est aussi une série de contexte. C'est-à-dire que c'est une série qui m'a assez fasciné mais que j'ai pas fini. Parce qu'à bout d'un moment, je crois que j'étais plus dans l'état d'esprit pour regarder. Je crois qu'il faut vraiment être dans un mood particulier.
La preuve, c'est qu'elle a été finie il y a quand même quelques années ouais. Et on a mis du temps à la finir.
Et je pense que ça prend une résonance maintenant aussi. Et du coup, j'ai un peu commencé Watchmen aussi de Damon Lindelof et ça part un peu pareil. Et du coup, je pense que ça va me plaire.
Ah ouais, le mec il a Netflix,
plein de mystères,
il a tout.
Mais j'ai lu un article sur The Leftover que moi j'ai pas regardé. Au fait, il regardait et comme on est coloc. J'entendais un peu en fond et de temps en temps je regardais quelques scènes et l'article disait en gros que c'est il appelle ça des séries à récompense. Il dit que c'est des séries où il faut s'accrocher, où il y a plein de mystères. Il met Westworld dans le même truc et il dit qu'en gros faut vraiment aller jusqu'au bout pour être récompensé et que c'est clairement pas destiné à tout type de public. Il y a des gens qui n'ont pas la patience de regarder ce genre de série, très clairement.
Oui, oui, oui. Bah, t'as la récompense à la fin du dernier épisode. Quoi. Donc, ouais, effectivement.
Et toi, Romain?
Ouh.
Est-ce que t'as regardé des trucs pendant ce confinement?
Ah, bah si, forcément, j'ai regardé des trucs. Moi, j'ai pas fait beaucoup de sport, hein, mais par contre, j'ai regardé des trucs. Il faut savoir que déjà, mon deuxième mois, je pense que la deuxième partie du deuxième mois, on peut l'oublier parce que c'était vraiment Naruto. C'était vraiment YouTube.
Bah, tu peux en parler de Naruto?
Mais oui, il y a des gens qui n'ont pas regardé Naruto encore.
Bon,
Naruto, j'ai trouvé que Naruto était sur Netflix. Et je t'avoue que je ne savais pas. Et j'ai trouvé Naruto sur Netflix et c'était une porte que j'avais laissée ouverte depuis mon adolescence. Et j'étais vachement fan de Naruto quand j'étais adolescent. Hein, donc ça remonte à mes années fin lycée, donc 2006-2007.
Ouais, tu fais toujours les signes de main. Hein.
Je fais toujours les cinémas Kakebushin no Jutsu. Et en fait, non, bah du coup, bah, en fait, Naruto, c'est quelque chose que j'ai toujours remis à plus tard parce que je n'avais jamais le temps de le voir. C'est impossible, en fait, en temps normal, de voir Naruto parce que c'est ultra long. Et puis moi, j'avais décroché depuis très longtemps. Donc, j'avais lâché à un certain moment où c'était encore en cours. Et bah là, pour le coup, deux mois sans rien faire, et bah, le deuxième mois, en fait, il s'est offert à moi. Et j'ai fait, bah, j'ai rien à foutre. Et puis, de toute façon, je suis au bout de ma vie, je suis en perdition. Regardons Naruto. Et donc, j'ai fermé une porte de mon adolescence. Et je vous avoue que j'ai pas versé ma petite larme, mais il y a eu ce petit effet pincement au cœur d'émotion de refermer cette petite porte d'adolescence, enfin, au bout de 15 ans plus tard.
Ouais,
quoi.
Comme à la fin de Sister Act.
Ah, bon, voilà. Non, j'ai fini Naruto, c'est pas une roco, mais si vous aimez les mangas shonen à la Dragon Ball, hein, qui, si vous avez vécu à la même année que moi, Naruto devrait vous plaire, évidemment. Mais je pense que tout le monde a déjà vu Naruto. Je pense que je suis le dernier retardataire sur le
coup. Ah non, moi, pas du tout. Non,
moi, je suis resté Keblo sur Dragon Ball.
Mais bon, c'est pas très fameux comme exemple, parce que Naruto, je le regardais en caleçon en train de me toucher les boules.
Ouais, ça t'a accompagné un certain
temps.
Non,
franchement, au début, je me suis senti pissé. Au début, je me suis dit, combien on a dit là? Au début, ils avaient dit 2 semaines. Déjà, moi, au bout de 2 semaines, j'étais en mode, oulala. Avec mon coloc de confinement, je lui disais. Frère, on va se faire plaisir, on va se mater des films cultes, des films anciens et tout. Donc c'est vrai qu'on a commencé à regarder un peu ce qui était proposé aussi sur les services privés qui ont en plus été gratuits à ce moment-là. Donc c'était cool, on a profité un petit moment et tout. J'ai regardé des vieux Hitchcock, par exemple, j'avais jamais vu La Corde. J'ai regardé La Corde.
Ah, ouais,
La Corde,
c'était vraiment
cool
parce que tu vois,
ouais,
rien pour voir. Et kiffant ou pas, je lui ai mis 2 lunes. Sur 5.
Ouais, de lune. Ouais, c'est ça ta notation.
Ouais, La Corde.
Ouais, je note en lune. Je donne zone. Je sais pas, j'ai pas été. Peut-être que je le vois trop tard et tout. Peut-être que j'ai vu trop de Inaritu entre temps.
Non, mais mec, la mise en scène.
La mise en scène est terrible.
La mise en scène incroyable.
Oui, pour l'époque, il faut se remettre dedans. Et
ouais,
tout.
Même. Et puis, c'est intéressant aussi, même dans la film.
Je me suis rattrapé, tu vois, sur des films un peu d'époque. Genre Le Grand Restaurant avec De Finesse, j'avais jamais vu. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard.
T'as mis combien de lunes?
Le Grand Restaurant, deux lunes et demie.
Mais tu lui as mis plus, ouais. Il est difficile.
Ah ouais.
Hein.
Et attends, il lui a mis plus.
Les yeux, son visage, je suis sûr que c'est un film que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît d'images, parce qu'il y a quand même des images qui sont très percutantes dans ce film, que je pense que tout le monde a vu ci et là dans des zappings ciné ou quoi. Les yeux, son visage, c'est quand même un film qui, en plus, dernièrement, a un peu défrayé la chronique parce que ça. Je vous le dis comme ça, mais c'est ce que j'ai lu dans les faits divers qui a un peu fait défaillir plusieurs élèves pendant une séance de cinéma, je sais pas quoi, je sais pas où et tout. Ils ont vu les yeux sur visage en projo.
Ouais,
c'était
fragile quand même.
Ils ont été, oui, un peu fragile, mais c'est vrai qu'il y a des images qui sont un peu choquantes dans les yeux sur visage. En tout cas, c'est vraiment cool à voir. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'inspiration de ce film, notamment dans La piel qu'a Habito,
oui.
de Almodovar. Tu fais, ah bah tiens, tu vois. Et ça, c'est vachement cool pendant le confinement d'avoir le temps comme ça un peu pour,
en plus,
pour
Netflix,
revenir un peu dans le passé. C'était, ça n'a pas été ma plus grosse occupation parce que j'ai vite vrillé en fait. Je suis vite devenu fou à mater des YouTube et des conneries comme ça. Ça n'a pas duré longtemps l'aspect cinéphile. Si je devais retenir par contre un film qui m'a marqué, et c'est assez bizarre parce que je suis un des seuls qui a été marqué et tout, on en a parlé nous pendant nos appels au visio.
Camping
tout. Non, c'était La Plateforme de Netflix. C'est,
sérieux
qui est sorti. Ouais, mais vraiment. C'est un film que j'ai vu et qui m'a marqué de manière très sensorielle, quoi. J'ai été dégoûté par ce film et en même temps le fait d'avoir été dégoûté de manière très sensorielle, de manière très charnelle par ce film qui est très organique, qui est très dégueulasse en fait, je pense que ça m'a marqué aussi, mais aussi dans ce que ça raconte. Et c'est un film qui a un peu défrayé à ce moment-là sur Twitter et compagnie parce qui a une fin très, très ambiguë. Mais c'est un film que je trouve à regarder parce que je trouve que le concept est quand même assez fou. Non, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé le concept quand même.
Il a une fin qui est symbolique, mais je sais pas si elle est vraiment ambiguë ou ouverte. En fait, j'ai l'impression que les gens se sont excités en mode il y a absolument une analyse à sortir et plein d'analyses possibles. Alors qu'en fait, la fin, oui, elle prend un tournant symbolique par rapport à tout le film qui est très concret, mais en fait.
Il y a 3 catégories de personnes. Celles qui sont au-dessus, celles qui sont en dessous, et celles qui tombent. La fosse. Oui, la fosse. Est-ce que vous savez à quoi il sert, ce trou? Évidemment. À manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que ceux du dessus voudront bien nous laisser?
J'ai hésité entre regarder ça. Il y a eu plusieurs succès Netflix pendant ce confinement. Il y en avait notamment
un
autre.
Turc, là.
Voilà, le film
turc.
Ah,
mais quel enfer! Quel enfer!
Ugumochi Mochizela, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Je
n'ai pas eu envie de le voir.
Avec l'histoire de ce gars.
Tu l'as regardé ou pas?
Handicapé. Non, pas du tout.
Ah non, mais moi, j'en pouvais plus.
Ouais, mais c'est un tire-larme, non, c'est ça?
Mais mon Dieu, pour moi, c'est une leçon de cinéma de ce qu'il faut faire pour créer absolument de l'émotion. Mais du coup, c'est très artificiel.
Ça a marché, ça a été un des gros succès des confinements.
Bah ouais, mais c'est ouf quoi, ça m'a donné envie de regarder Mustang, ouais. Du coup, je me suis dit, je vais
Mustang,
voir un autre.
C'est super bien.
Je me suis dit, tiens, je vais regarder un autre film turc qui peut-être.
Mustang, je te le conseille vraiment, ça va te plaire, Johanna.
Il est sur ma liste,
hein. Super intéressant.
Donc, sur ce confinement, en fait, beaucoup de choses, en fait, envie de découvrir. Et j'avoue que j'ai pas été très assidu dans l'envie de découverte. Bizarrement, ce que nous a apporté le confinement, il faut savoir que pour nous tous, ça a été quelque chose de nouveau à vivre. Donc, c'était un des émotions nouvelles, des sentiments bizarres par rapport à ce qui se passait et tout. Chacun l'appréhendait à sa manière. Et en fait, j'ai tout de suite été conforté dans le fait de revoir des films que je connaissais déjà, parce que j'avais envie de retrouver des héros, et notamment ma petite capsule de survie chaque année. Hein,
Jurassic Park.
Non, oui, Jurassic Park fait partie évidemment toujours. Ça vaut même plus la peine de le dire. Mais non, le Seigneur des Anneaux, les trois, la trilogie.
Ah, tu te l'as refaite.
Ah ouais, c'est un film de confinement. C'est une trilogie de confinement. Clairement, quoi. Moi, dès que le confinement a été annoncé avec mon collègue de confinement, qui est Wiki Pullman en plus, hein, que vous connaissez, qui était là au début du podcast, qu'on n'a plus vu après, mais on s'est confinés ensemble et on a une grande passion pour la version longue, les versions longues des Seigneurs des Anneaux, et pour nous, c'est un antidépresseur, et c'était limite obligatoire de re-regarder, re-regarder le Seigneur des Anneaux, et comme beaucoup d'autres films, hein, j'en passe, c'était pas mûr. Mais par contre, par contre en termes de séries, parce que vous avez été sur les séries, j'ai pas grand chose à proposer. J'ai regardé La Casa de Papel saison 4. Ne regardez pas ça, hein, c'est bon, on nous prend pour des cons jusqu'au bout. Ça
a le début. Hein.
Oui, mais ça a été rigolo au début parce que c'était une bonne telenovela d'action et tout. C'était marrant, il y avait des rebondissements.
C'est génial, telenovela d'action.
Finalement, on nous prend pour des cons. Par contre, quelque chose qui est à prendre très au sérieux, et je dis ça parce que simplement c'est un spin-off de la meilleure série du monde entier, de tous les temps et de tous les univers parallèles confondus. Better Call Saul.
Oh là là, faut que je finisse.
La saison 5. Est absolument incroyable.
Je suis d'accord, je plus sois.
Incroyable. Je sais, Kevin, que tu allais rebondir parce qu'on en discutait sur les réseaux, toi et moi, à chaque découverte d'épisode. Et ça a été quelque chose qui est arrivé en cours de confinement, qui était déjà attaqué. Mais en tout cas, de retrouver comme ça tous les mardis Saul et son histoire complètement incroyable d'avocat véreux, qui devient véreux du moins, afin de comprendre son personnage dans Breaking Bad. Enfin, je trouve que cette série est absolument.
Et cet acteur est incroyable.
Bah, le truc, c'est que ça devient presque mieux, quoi. Ça me fait bizarre à dire, mais ça devient presque mieux.
Je dirais pas ça, c'est différent.
Enfin, je trouve qu'en fait, peut-être pas dans la série dans son ensemble, mais là, la dernière saison, par exemple, ils ont atteint une maturité qu'ils n'avaient pas pendant Breaking Bad, par exemple. Et là, ça se ressent de fou, et tu dis que là, ils ont pris un level incroyable, quoi.
Et ce sont des séries sur lesquelles il faut avoir compréhension du temps qui t'est proposé. Il faut pas que tu sois impatient. Tu ne peux pas regarder ces séries comme pour Breaking Bad si tu es impatient. Et Better Call Saul prend son temps comme Breaking Bad le faisait aussi à son époque, d'une autre manière, parce que c'est beaucoup moins dramatique, il y a beaucoup moins d'enjeux dans
après,
la survie.
Il y a un peu de trucs dramatiques aussi quand même.
Mais il y a quand même des bases qui sont posées et qui te permettent de comprendre mieux l'univers qu'est Breaking Bad, quoi, en gros. Et non, c'est vraiment à son faute et que je me suis délecté vraiment, et c'était mon petit rendez-vous de confinement où j'oubliais tout. C'était mon petit mardi matin quand je me levais, que je savais qu'il y avait un épisode de Better Call Saul qui était sorti. Et ça, c'est Marocco de série, voilà. Donc juste la plateforme, si vous n'avez pas vu, donc qui divise, hein, parce que bon, on aime ou on n'aime pas, et moi ça m'a fait un effet un peu glauque.
Et toi, qu'est-ce que t'as aimé dedans, du coup ?
J'ai aimé le fait que ça m'a marqué, surtout. Vraiment, c'est pas forcément, je dirais pas que le film je l'ai adoré, je dis pas que le film je l'ai adoré, c'est vraiment un super film et tout, mais je dis juste que ce film m'a marqué de manière à ce que j'y pense quand même encore après longtemps après que je l'ai vu. Mais au sens vraiment où il m'a marqué, c'est sensitif, quoi. J'avais vraiment qu'il était sur moi, le film, que je devais m'en décoller, parce que c'est un film qui est glauque. Et non, c'est à voir, parce que rien que dans le concept, j'ai trouvé ça super intéressant, et pareil, c'est un film qui a mille interprétations possibles. C'est un débat, mais en tout cas, c'est le film qui m'a le plus marqué, en tout cas, durant ce confinement. C'est peut-être l'effet confinement aussi qui m'a fait. Et Better Call Saul, voilà. Ce sont mes recommandations de confinement, ça, et c'est mon coup vidéo club à moi. Et t'as regardé quoi d'autre, Clémence ?
Il y a un film qui m'a marqué, que j'ai regardé au début du confinement, qui parle un peu de l'industrie du divertissement aux États-Unis. Attendez, je ménage un peu le suspense. En fait, au début du confinement. T'as raconté ta life, Romain, je raconte la mienne. Au début du confinement, j'avais du mal à regarder des nouvelles choses et j'avais besoin de zones de confort et de revoir des films, revoir des séries. Et j'avais aussi besoin de voir des gens que j'aime. Et des gens que j'aime, il y a notamment Jim Carrey dedans. Jim Carrey. Et il se trouve que le plaisir avec Jim Carrey, c'est de n'avoir toujours pas vu tous les films dans lesquels il a joué et d'en découvrir toujours. Et il y en avait un que j'avais pas vu, c'était Man on the Moon de Milos Forman. Et voilà, donc c'était de Man on the Moon que je voulais parler, parce que vraiment, j'ai tellement aimé ce film. Mais alors, je sais pas si j'ai été influencée, parce que j'avais vu avant le documentaire Jim et Andy, il y a quelques mois. Donc je connaissais déjà l'histoire de Andy Kaufman, parce que c'est un biopic de Andy Kaufman.
Un documentaire qui raconte l'histoire du tournage. Du film, dans lequel on peut voir un Jim Carrey complètement possédé par son personnage.
Ouais, sachant, en fait, c'est très vertigineux le documentaire Andy et moi quand on le découvre sans avoir vu même le film sur Andy Kaufman, parce que Andy Kaufman est une personne qui avait envie de faire du show et qui avait envie d'être, enfin, qui était complètement anticonformiste et qui mettait tout le temps le public dans une zone d'inconfort et qui jouait avec des personnages et qui n'était jamais vraiment lui-même. Or, il se trouve que donc on a eu un biopic qui s'appelle Man on the Moon sur ce gars et c'est Jim Carrey qui le joue, et ce qu'on voit dans le documentaire Jim et Andy, c'est que Jim Carrey s'est tellement emparé de ce personnage qu'il n'était même plus lui-même et qu'il n'était même plus... Enfin, c'est vertigineux parce qu'en fait, Jim Carrey se mettait dans la peau d'Andy Kaufman qui lui-même se met dans la peau de différents personnages. Donc, tu ne savais plus qui il était du tout. Et du coup, j'ai donc enfin vu Man on the Moon. Et en fait, c'est un des meilleurs biopics que j'ai vu parce que déjà, on a la réelle de Milos Forman qui pose son regard sur le milieu du divertissement, du spectacle. Il a un regard assez facétieux, quoi, sur les producteurs, sur ce qui va faire de l'audience, sur les séries qui marchent. Sur le public aussi, sur ce qu'attend le public en général, des personnages assez clichés, de la comédie assez confortable. Et du coup, ce personnage d'Andy Kaufman qui a réussi à percer en incarnant des personnages très inattendus, il est passionnant. Et ce qui m'a passionné dans le film, c'est que du coup, Jim Carrey qui le joue est pour moi exactement pareil. C'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant qu'ils aient fait ce documentaire sur lui qui le joue, parce qu'en fait, c'est ça que tu sens quand tu vois le film. C'est ce mélange chez un gars qui veut être à la fois drôle, être populaire, faire rire les gens et qui en même temps est très seul parce que son humour est très particulier et qu'il n'est pas complètement compris. Il est très populaire, mais
il n'est pas... Et qu'on ne sait pas quand la vanne s'arrête, au fait.
Ouais. C'est ça.
C'est que le gars, il n'a pas de limite.
Il n'a pas de limite.
Et personne n'arrive vraiment à le personnage d'Andy Kaufman.
Il est reconnu, il est populaire, mais il n'est pas reconnu comme une star. Il est plus un phénomène. Il est vu un peu comme un phénomène de foire malgré lui, et il joue de ça.
Ouais.
Et il s'en fout, en fait. Il veut juste mettre les gens dans un inconfort total et jouer avec leurs limites. Et du coup, Jim Carrey, je trouve, est exactement pareil. Et moi, je l'adore. Jim Carrey, je l'ai découvert comme comique dans The Mask, dans Menteur, dans des comédies comme ça. Mais tu découvres aussi que c'est quelqu'un de très mélancolique qui sait jouer des rôles dramatiques incroyables. Et là, dans ce film-là, c'est juste un condensé de ça. C'est la mélancolie plus l'envie d'être drôle et d'être aimé, mais la solitude aussi. Et voilà, c'est incroyable.
Mais tu sais, Andy Kaufman, là, il me fait penser à Monsieur Fraise. Je ne sais pas si vous connaissez, comme humoriste français.
Totalement.
Et ça me fait beaucoup penser dans l'univers, ce personnage de Monsieur Fraise qui mène de l'inconfort, qui joue avec la patience du spectateur, avec ses limites, et qui peut passer des minutes sur scène à ne rien faire, mais qui te fait rire quand même. Et tu ne sais pas quand s'arrête la vanne, quoi. C'est-à-dire qu'il il étire jusqu'au bout le rien. Et du coup, Andy Kaufman, ça m'a fait vachement penser
à ça. Il a fait un truc qu'on voit dans le film, c'est à un moment, en fait, il était dans une série télé et il jouait un taximan qui avait un accent indien et qui disait... Il avait une réplique qui disait tout le temps avec l'accent indien. Et tout le monde se foutait de sa gueule, mais était mort de rire parce que c'était l'indien de la série. Et à un moment, il était tellement populaire qu'il a réussi à obtenir d'avoir un live pour lui, où en gros tout le monde attendait qu'il joue ce personnage, sauf qu'il est arrivé sur la scène, sur le plateau télé en direct, et en fait il a ouvert un livre de Fitzgerald, Gatsby,
Gatsby le magnifique,
et il s'est mis à lire le livre au public qui était là en direct et qui était censé balancer des rires et tout. Et en fait les gens n'avaient rien à foutre, mais ils s'en foutaient. Il est allé jusqu'au bout du livre, jusqu'au dernier mot du livre.
Par colère aussi, parce qu'il se dit, attendez, vous pensez
quoi,
c'est mon show.
Et en fait,
ce
qui est assez surréaliste dans ce film, c'est que tu vois que les producteurs, ils l'arrêtent pas parce qu'ils savent qu'il est toujours dans le happening et ils savent qu'il va se passer un truc potentiellement. Donc en même temps, ils veulent l'audience, donc ils le laissent faire. Et à la fin, il reste qu'un seul gars qui est là pour l'écouter et il s'en fout. Lui, il a obtenu qu'il y a un gars qui l'écoute jusqu'au bout et il s'en fout totalement de l'audience derrière. Voilà, c'est le genre de numéro qu'il faisait et c'est ce film est vraiment super.
Hello, I am Andy.
I want to be the biggest star in the world.
Your act is like amateur hour.
And I'm not like everybody else.
I really like what you did out there.
I'm not a comedian. I don't want to go for cheap laughs.
You jerk!
What's wrong with this guy?
They detest you.
That means we're a success.
40 million people are watching you every week.
Party time for latka.
Some of us at Saturday Night Live think Andy Kaufman's a comic genius.
Thank you very much.
You just don't respect anything.
You said some pretty inflammatory things.
I'm sorry.
I've always got to be one step ahead of them.
This guy is so obnoxious.
It's good old-fashioned entertainment, George.
Is Andy Kaufman crazy?
I'm just acting crazy.
I'm gonna do it again and again and again and again and again and again and again.
Grosse roco sur Man on the Moon de Milos Forman.
Jim
Carrey qui tient le rôle de Andy Kaufman. Alors si vous connaissez pas Andy Kaufman, c'était un grand comique américain.
Ouais, d'ailleurs, il y a une théorie sur sa mort. Parce que les gens, certains de ses proches pensent que... Non, mais parce que si tu vas sur Wikipédia, le vrai Andy Kaufman, il est décédé.
Je censure ce que tu vas dire.
De quoi?
Stop.
Ah, tu veux dire qu'il est sur...
Je sais
tu
pas.
Veux dire que c'est...
Non,
façon,
c'est juste que...
Dans... Il est
sur Tupac.
Non, mais dans la...
Spoil pas le film.
Mais tu sais qu'il est mort. Enfin, si tu regardes
oui,
demi...
Bah,
bon, ben, je
oui,
dis rien,
bah,
alors.
Si, il est dead, c'est pas un spoil.
Parce que l'anecdote, elle est fun, c'est que ses vrais potes pensent que c'est une vanne, sa mort. Et du coup, ils ont organisé son anniversaire, je sais plus combien d'années plus tard. Parce qu'à cause d'un de ses sketchs, il pensait que c'était un indice pour dire qu'il allait revenir à cette date-là. Et du coup, il a eu un vrai anniversaire des années après avec ses potes qui l'attendaient en se disant
oh,
il va revenir.
Le seum qu'il devait avoir quand il n'est pas venu. Et maintenant, Andy ah, bah non, il est vraiment dead, les gars. Arrêtez, sortez.
Et d'ailleurs, cette info ne spoil pas la fin du film, je tiens à le dire.
Man of the Moon, Milos Forman, Jim Carrey. Très grand film, très bon film. Et si ça vous donne envie, basculez sur le documentaire Netflix qui... absolument incroyable où on peut voir un Jim Carrey mais halluciné quoi.
Ah, il possédé, qu'il est littéralement
transcendé,
ouais.
Possédé,
ouais.
Transcendé par son ouais. Rôle qui... donc vous verrez tout le backstage de ce film là justement, une espèce de making of centré sur Jim Carrey qui est possédé par ce personnage qui est Andy Kaufman et qui a certainement l'a changé à jamais, en tout cas hein. Vraiment quand on voit le documentaire c'est assez dingue. Ah, bah c'était nos recos de confinement, c'était notre co-vidéo club, comme nous l'a soufflé Bruno au coin de l'oreille à une époque. Le co-vidéo club de Feta BA, avant qu'on revienne hein, sur la BA d'un film, un film qui va sortir. Pour l'instant, de toute manière, les cinémas sont fermés. Nous, on va rester un peu plus patients. Ça ouvre quand déjà?
Le 22 juin.
Je suis en manque total, je me gratte comme un gros toxico là, depuis 2 mois. J'ai jamais passé autant de temps sans aller au cinéma, je sais pas vous.
Pareil,
ouais, pareil. Aussi,
ouais. Depuis au moins une dizaine d'années, j'ai jamais passé autant de temps aussi éloigné d'une salle de cinéma.
Alors moi, heureusement, j'ai vécu voilà. 10 ans sans aller au cinéma une seule fois, donc là je me sens super bien.
Heureusement aujourd'hui, comparé à une époque où on devait user de roublardise pour pouvoir regarder des films qui n'étaient pas encore là, ou qui là on a pu quand même... Hein, avoir notre Netflix, notre Amazon, nos DVD, nos machins.
OCS.
OCS, la télé aussi.
Bon
hein. Voilà, moi j'en avais fait un, c'était cool.
Tous les mardis soirs, Harry Potter. Faut le savoir.
Tous les mardis soirs, Harry Potter. Ouais.
Top Chef.
J'ai vu qu'il y avait une grosse tendance Twilight aussi qui était passée à la télé.
Ah
et
ouais
sur Twitter, c'était la folie tous les mercredis. Ouais.
En tout cas, le cinéma, ça me manque, mais d'une force. Dès que ça rouvre, nous, on va reprendre un cours normal. On va se dire maintenant au revoir et puis on va parler un peu de la suite. Pour nous, pour vous, pour tous.
On n'est pas bien ?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, voilà. Le co-vidéo club de Feta BA. Notre déconfinéma. N'est-ce pas?
Quelle voix douce.
Des séries et des films que nous avons vus
ou pas vus
pendant que notre genre mourait. Donc
ça
tombe mal. Franchement, il y avait une petite douceur dans la mélodie, ouais. Un peu. Moi, ça me plaisait, mais
on
franchement, les paroles sont trop
ouais.
Bordes.
De quoi nous échauffer un peu en reprenant les micros, de quoi un peu se raccommoder aussi au monde du podcast qu'on a abandonné pendant un moment. On n'avait pas le choix, on a beaucoup pensé à vous, auditeurs, auditrices, on a beaucoup pensé à vous. Peut-être que vous aussi avez pensé à nous, on va savoir. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer.
Bon, on sait que vous n'avez pas pensé à nous, mais faites comme si.
C'était compliqué pour nous d'être là au moment voulu, mais maintenant, on va essayer de redonner une définition au mot hebdomadaire. Hein, Inch'Allah, après, il y a les vacances qui arrivent, on en reparlera aussi. Bref, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va finir la saison 1. On a encore un épisode qui doit sortir, un épisode qui réunira tout le gratin de Feta BA.
Mais qu'est-ce qui s'y sera
hein, oh là là.
Parce que là, pour le moment, on est 6, on est bien, mais tout le monde n'est pas là. Et le prochain épisode qui devrait sortir pour clore cette saison se passera, évidemment, dans une galaxie très lointaine. Très, très lointaine. Oui, cet fameux épisode dont on vous avait promis la sortie au mois de février finalement sortira au moment de sa sortie DVD aussi. Hein, et on vous dira à quel point il ne faut pas acheter cette merde. Nous basculons ensuite sur la saison 2. On vous promet plein de nouveautés. Hein?
Beaucoup
d'enthousiasme,
ouais.
Hein, n'est-ce pas?
Des nouveaux, des nouvelles chroniques,
un nouveau concept. Hein, ouais. Faites ABO.
On se reverra d'ici là. Ben, quand les cinémas rouvriront, quand le programme sera défini,
on sera hal.
Nous pourrons revenir et se faire des BA sans aucune objectivité, les copains. Un gros bisou à tout le monde. On est très content de vous retrouver.
Bisous avec les coudes.
Ciao.
Ciao.
Salut.
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 À plus.
Au revoir, Shoshana.
Je sens que cette histoire de d'ananas va être l'intro.
Ça fait sens.
Ça fait
sens.
Ça fait sens.